Au total, 9 représentants africains ont atteint les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Une performance qui confirme donc la progression du continent sur la scène mondiale. Même si la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont déjà quitté la compétition en 16e, une nation africaine a validé les tickets pour le tour suivant. Donc, quant à confirmation, surprise et nouveaux espoirs, quel bilan tirer de cette campagne africaine? Cette génération est-elle en train d'échanger le regard porté sur le football du continent? Messieurs et dames, dans ce nouveau numéro du débrief africain du mondial, Gédéon Bikaï à la présentation reçoit Anthony Lutambwe depuis Kinshasa qui va analyser le parcours continent africain avant une phase à élimination directe ou encore avant le 8e de finale qui promettent de nouveaux défis. Merci à vous de rester branchés pour cet épisode. Messieurs et dames, nous sommes très heureux de vous recevoir.
Zone Sport.
Dans quelques minutes, Anthony Lutambwe depuis Kinshasa répond à nos questions pour analyser ses parcours africains. Salut Anthony, merci de nous faire plaisir pour décortiquer ces nouvel épisode. Anthony, 3 petites questions pour vous. Déjà, 9 équipes africaines sur 10 en 16e. Est-ce les signes d'un véritable changement des dimensions du football africain ou fallait-il encore attendre pour parler d'une révolution?
Salut Mbikaï, salut à tous les internautes, auditeurs. Ouais, 9 équipes africaines sur 10 en 16e. Je peux dire que c'est le signe d'un changement de dimension du football africain quand même, parce qu'on a quoi progressé dans la gestion des matchs. Ça veut dire que on a un peu mis de côté certaines émotions. Ça, je parle principalement du Maroc qui nous a beaucoup fait plaisir l'édition dernière, demi-finaliste. Et le cran au-dessus face à la France, c'était pas difficile. C'est pas facile à pouvoir passer. Après, il y a d'autres équipes, la RDC notamment. On fait un bon match face au Portugal, alors que c'est des matchs où on prenait des valises. Donc on a grandi aussi tactiquement, où on sait se placer, on sait jouer à la défensive. Et voilà, et accepter de souffrir en se donnant un minimum de chances pour peut-être piquer au bon moment. Donc ça, c'est ça aussi une des choses, des valeurs qui montrent un peu que le foot africain a progressé. Voilà. Mais pour parler révolution, je pense quand même un peu moins, parce que il y a un exemple, la Côte d'Ivoire doit battre l'Allemagne dans ce match-là, mais ils respectent beaucoup. Parfois, on respecte beaucoup encore, c'est normal, parce que il y a encore un écart des niveaux assez abyssal, mais la progression, elle est déjà bonne. Pas encore la révolution.
9 sur 10, c'est donc un véritable signe de progression, de maturité. Anthony, plusieurs sélections africaines ont affiché une grande maturité dans cette Coupe du Monde, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui a le plus évolué? On peut parler donc de la qualité des joueurs, de la préparation ou encore de la gestion des matchs à haute pression.
Je peux dire qu'il y a beaucoup de progression en termes de maturité, oui, parce que, comme je l'ai dit, on n'entamait pas très bien les matchs. On était très, on jouait avec la peur au ventre, carrément, quand on venait dans certaines rencontres. Et voilà, le doute s'installait rapidement. Et on se disait, enfin, ce sont des top joueurs, ils jouent dans les top clubs, et ils ont l'habitude de ce genre de compétition. Nous, on vient pas. Déjà, c'est notre première pour cette génération. Bon, on va dire deuxième, après celle de 74, mais c'est la première de celle-ci. On a quand même progressé en termes de maturité. Ce qui pose un peu problème maintenant, c'est la gestion des fins de match ou la gestion des matchs à haute intensité. Ça, on l'a pas encore beaucoup. Vous voyez? Donc, c'est comme si, voilà, des matchs des poules, on est bien casé dans des matchs aussi assez, où on est regroupé derrière, on le fait bien. Mais quand il faudra maintenant passer ce cap où il faut battre un top pays, ça, il y a très peu qui le font. Mais je pense qu'on a, quand même beaucoup évolué dans ça. La préparation aussi, oui, parce que, vous vous souvenez, nous, on a fait plus d'un mois à l'étranger. Bon, il y a aussi un peu la situation d'Ebola qui nous a aidés. Et on a eu à jouer des grosses équipes en amicales. Ça, on n'avait pas trop souvent. À l'époque, moi, j'avais jamais vu la RDC jouer face à un pays qui a le nom du Danemark. On jouait très souvent entre Africains. Et une fois, on a joué face à la Nouvelle-Zélande. Donc, on n'avait pas eu encore des pays comme ça. Le Chili, le Danemark sont des grosses nations quand même, ou des noms quand même connus du foot qu'on n'avait pas eu à affronter. Ça donne aussi un autre aspect, toujours un autre football, à notre façon de voir les choses, à notre façon d'entrevoir les choses. Maintenant, il y a aussi des joueurs qui viennent de l'étranger, des binationaux, qui sont nombreux dans notre équipe nationale et ils jouent quasiment tous en Europe. Ils n'ont pas ce complexe-là face au top pays parce qu'ils ont aussi la possibilité de jouer dans ces championnats anglais, français, belges, suédois, néerlandais, grecs. Oui. Donc ça leur donne aussi ce manque de complexe-là quand ils viennent aborder la compétition. Et c'est quand même la qualité des joueurs aussi qui évolue. La gestion de match, oui. Maintenant, la gestion des matchs à haute pression, ça, là, il faut maintenant qu'on puisse travailler cet aspect psychologique pour se dire, tiens, on joue l'Angleterre, on joue la Belgique, on joue la Norvège ou n'importe quel pays. On est capable de les battre.
Donc une maturité dans la progression ou dans l'approche de cette compétition semble être visible pour les Africains. Anthony, depuis Kinshasa, pour terminer avec le match à élimination directe qui ont déjà commencé, quelles nations africaines ont, selon vous, les arguments pour continuer à écrire l'histoire après ces deux nations qui sont déjà sorties de la compétition?
Bon, pour la dernière question, je ne vais pas me muer en prophète du foot, même si je le tente quand même parfois avec quelques paris sportifs. C'est que bon, la sud-africaine est déjà éliminée, la Côte d'Ivoire aussi, le Maroc est qualifié, donc naturellement, je veux dire, le Maroc qui peut encore un peu plus avancer au vu surtout du prochain adversaire, je crois que c'est les Canada. Après, à partir des quarts, des finales et possiblement les demi, là ce sera un peu plus difficile que l'édition précédente pour les Lions de l'Atlas. Mais c'est l'équipe sur qui je peux jeter aussi mon dévolu un peu. La République démocratique du Congo, c'est un peu compliqué. Bon, on dit toujours que c'est une équipe très imprévisible, on ne sait pas ce qu'elle va nous produire. On s'attendait peut-être pour certains qu'elle puisse perdre face au Portugal. Ils ont pu faire cette différence-là et s'en sortir avec un match nul. Donc, on ne sait pas trop les voir face à prédire. Mais si ça passe face à l'Angleterre, ça peut être aussi quelque chose de positif, mais c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas évident de le dire. Le Sénégal, oui, mais ils nous ont prouvé aussi qu'ils avaient quelques limites, parce que pour moi, ils ne doivent pas perdre face à la Norvège. Face à la France, oui, parce que la France, c'est carrément l'une des meilleures équipes du monde avec l'Argentine, ça le reste encore aujourd'hui. Mais face à la Norvège, ils ont montré un laxisme et des limites qui ne m'ont pas forcément plu. Et s'il y a ces limites face à la Belgique, je pense que ce sera difficile de passer déjà. Et puis d'aller un peu plus loin dans la compétition. Après, il y a le Cap-Vert, un véritable outsider, face à l'Argentine. Tir au but possible, mais dans l'aspect du match, 90 minutes, 120 minutes, je ne pense pas que ça puisse le faire. Donc c'est vraiment une compétition, c'est assez imprévisible. C'est assez difficile de se lancer comme ça. Bon, naturellement, je peux dire Maroc-Sénégal, même si c'est compliqué. L'Égypte peut passer aussi face à l'Australie, parce que c'est une équipe qui sait jouer ce genre de match. Mais celui sur qui, moi, je m'appuie, c'est le Maroc, par rapport au vécu récent et par rapport à la qualité du football. Ils ont titillé les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont venus avec un jeu différent. Ils ont appliqué les 5-3-2 face au Maroc. Ça, c'est étonnant. Donc, ça veut dire qu'ils ont peur aussi d'une équipe africaine. Et c'est une belle progression comme ça. Donc, je mise sur le Maroc, probablement le Sénégal et probablement l'Égypte. Les RDC, j'y crois en tant que Congolais. mais difficile de me projeter parce que on vient pas avec des certitudes, on vient avec donc on aborde le match avec avec l'étonnement. Ça c'est, je parle du Congolais. Ah, Tobé t'es bien. Ah, on a bien vibré. Voilà. Donc on ne sait pas dire que vient la RDC va bien entamer ce match et puis pas dominer ou va venir avec une stratégie pareille. Vous voyez. Donc on est étonné parfois positivement et négativement dans les rencontres. Donc c'est difficile de se projeter sur cela.
Le Maroc, le Sénégal et peut-être encore la République démocratique du Congo peuvent encore créer de suspense. Merci Anthony Lutamboué depuis la capitale Kinshasa. Cette Coupe du Monde est déjà en train d'échanger le reçu du football africain. Le résultat ne raconte pas seulement des victoires ou des qualifications. Il raconte plutôt une évolution dans la manière d'aborder le plus grand rendez-vous du football mondial. Mais la compétition ne fait donc que commencer, comme on peut le dire, pour le survivant. Les 16e de finale vont maintenant imposer une autre exigence, celle de confirmer face aux meilleures nations du monde. Dans notre prochain numéro du débrief africain du mondial, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur un rendez-vous qui fait déjà vibrer tout un peuple. La République démocratique du Congo affronte cet après-midi même l'Angleterre. Les choix de Sébastien Desabre, le force de Léopard et les clés d'un duel historique seront au cœur de notre analyse prochaine avec Dieudonné Batotela depuis Lubumbashi. Messieurs et dames, dites merci à Anthony Lutamboué depuis Kinshasa qui a décortiqué ses parcours africains. Gédéon Bikaï a encore une fois de plus été à la présentation de ce débrief africain du mondial. Dieny Gomer Dipang revenu à la coordination. Merci à toute la grande équipe de gouverne.info qui a concouru à la réalisation de ce numéro. Je vous fixe rendez-vous tout à l'heure avec Dieudonné Batotela pour un nouvel épisode.